C'est aujourd'hui le 14 novembre et nous avons plusieurs saints encore. Et si vous voyez la liste des saints dont on pourrait parler, il y a des gens qui se disent « mais vous allez épuiser ». Mais non, il y en a beaucoup, sans compter tous les gens remarquables qui sont morts aussi. Un 14 novembre, et puis il y a aussi, au besoin, des miracles à Lourdes qui ont eu lieu des 14 novembre ou qui ont été reconnus un 14 novembre. Il y a tellement de choses dont on peut s'entretenir ensemble, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un saint irlandais qui a un nom tout à fait irlandais, Saint Laurent O'Toole, Lawrence O'Toole diraient les Anglais, et certains Irlandais qui parlent l'anglais maintenant, puisque ce n'est pas vraiment leur langue, en fait, c'est le gaélique leur langue. Donc, Saint Laurent O'Toole, qui a un nom bien moderne, est un vieux saint. Et savez-vous que de cet homme, on a conservé des reliques qui ont été transportées vers Port-Royal, au tout début de la colonie ici au Québec, en 1610, Port-Royal, évidemment, c'est en Acadie. Et ce sont les reliques de Laurent O'Toole, cet archevêque irlandais, qui avait été élu archevêque de Dublin en 1162. Il a été contraint, je vous résume sa vie, puis on va la développer tout à l'heure, il a été contraint à la suite de difficultés religieuses et politiques, parce qu'il s'opposait à la présence anglaise sur l'Irlande, qui était déjà là, hein, ils ne s'en sont débarrassés, et partiellement, pas toute l'Irlande, qu'en 1920 environ, hein, après une révolution terrible, c'était très dur. Et alors, il y a eu donc des difficultés religieuses, politiques, puis il a dû se réfugier dans la ville de E.U., c'est pas long comme nom de ville. Elle existe toujours, elle est là, dans l'arrondissement de Dieppe, c'est en Normandie. Et c'est là qu'il est mort, le 14 novembre 1180. Il a été canonisé assez rapidement, au bout de 46 ans seulement, en 1226, à la demande des chanoines d'eux. L'anecdote au sujet de ces reliques, c'est qu'en 1610, deux pères jésuites, Pierre Billard et Edmond Massé, devant partir bientôt, dit-on dans les vieux textes, afin de prêcher l'Évangile en Nouvelle-France, demandent aux chanoines d'eux l'autorisation d'emporter une relique du Saint grâce à laquelle ils espèrent, disent les vieux textes, par lui surmonter les prochaines tempêtes de la mer et de l'hiver et la plupart des périls menaçant leur mission. Il faut dire que nos ancêtres, quand ils sont arrivés ici, c'était terrible. Encore plus terrible qu'aujourd'hui, du moins pour ce qui était du temps qu'il faisait. Et les hivers, la difficulté de se chauffer, de surmonter le scorbut et quantité de maladies, et sans compter les difficultés avec certains Indiens, pas tous, la plupart des Amérindiens ont très bien reçu nos ancêtres. Alors ces bons pères, Pierre Billard et Edmond Massé, ont quitté la France en emportant l'os gauche de la boîte crânienne. On peut sourire comme je souris, mais au fond, cette délicatesse à l'égard du corps, temple de l'Esprit-Saint, où on vénère une parcelle de ce corps qui a servi d'instrument à l'âme, pour poser des gestes de charité, d'évangélisation avec la bouche, en parlant, en annonçant l'Évangile. Ce corps qui a servi, dans le cas des gens mariés, à l'engendrement d'enfants et de nouveaux êtres éternels. Ce corps qui devrait toujours être présent, à mon avis, aux funérailles, afin qu'il soit béni et encensé. Il y a un manque de respect pour le corps actuellement quand on incinère le corps avant les funérailles. Jamais je n'accepterai qu'on fasse ça de mon pauvre corps, qui est souvent l'instrument de péché, mais qui est aussi l'instrument de mille grâces et qui est un don de Dieu. Et ce respect pour les reliques, on devrait l'avoir quand on pense à tout ça. ce n'est pas suffisamment enseigné à mon sens. Et donc, ces deux pères sont partis avec l'osgos de la boîte crânienne de ce très glorieux Laurent O'Toole, l'un des plus grands saints irlandais. Leur voyage a été béni, et l'os a été rendu au chanoine qui s'était donné pour mission de le garder. Mais Saint Laurent O'Toole ne fit pas un voyage inutile. Il a sauvé d'une mort certaine, dit-on, Actodin, le fils du guerrier Membertou, qui, dit-on, était languissant. Il était considéré comme moribond et abandonné à la mort par sa femme et ses enfants. Et on dit que c'est grâce à la vénération de cette précieuse relique et à l'intercession de Laurent O'Toole que Dieu l'a guéri. Quelqu'un a voulu voir, d'ailleurs j'ai lu ça dans Léon Trépanier, n'est-ce pas, ces petits bouquins, on veut savoir. On a voulu voir dans Laurent O'Toole le véritable patron du fleuve Saint-Laurent, celui qui aurait inspiré ce nom. Je crois qu'il faut rendre à Jacques Cartier ce qui lui revient. Il faut rappeler que c'est lui qui a donné le nom de Saint-Laurent à ce petit havre de la rive nord là, du Golfe, lorsqu'il est entré le 10 août 1535. Ça fait longtemps de ça, 460 ans. Et au fil des années, bien le nom de ce petit havre a été donné à tout le Golfe, puis finalement au fleuve, notre beau fleuve Saint-Laurent. Et le petit havre, lui, porte aujourd'hui le nom de Sainte-Geneviève. J'ai oublié de vous nommer au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Donc voici la vie de Laurent O'Toole. Son nom irlandais était Lorcan Wa Twaltel. Qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est du gaélique. On a transposé ce nom-là en Laurent O'Toole, O'Twahal, d'après une graphie assez ancienne. C'est juste pour vous donner une idée que cette langue incompréhensible, je suis allé en Irlande, et puis j'entendais les enfants, certains enfants qui parlent le gaélique, et aussi l'anglais, et parfois aussi très bien le français, parler cette langue incompréhensible, et on voyait les affiches un peu partout, dans cette langue étonnante, étrange, et qu'ils affectionnent de plus en plus en Irlande. Ils retournent à cette langue, qui est une langue, paraît-il, fort poétique, et qui a engendré de nombreux poètes irlandais très réputés. Mais ils sont reconnus surtout pour leurs grands poèmes en langue anglaise. Donc, notre Laurent O'Toole s'est efforcé, par des temps extrêmement troublés, là, de 1123, croit-on, l'année de sa naissance, jusqu'à 1180, l'année de sa mort. Il a, très jeune, été intéressé à ramener l'Irlande à un christianisme vraiment réel, surtout quand il était archevêque, évidemment. Il a voulu ménager la transition entre une forme d'indépendance assez anarchique de son pays, puis la domination anglaise qui s'imposait. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette domination anglaise en Irlande à l'époque, hein? L'Irlande avait eu le malheur d'être coupée de Rome par ses Anglais, car la conquête anglo-saxonne de la Grande-Bretagne, puis la conquête franque de la Gaule, avait créé bien des ennuis avec Rome, et l'isolement avait amené en Irlande, dans cette île, une décadence, qui avait connu cette île une belle vie chrétienne autrefois. Il faut voir dans un très beau musée à Dublin que j'ai eu la chance de visiter, un musée d'allure assez moderne, assez sombre, qui, dans des jets de lumière, attire notre attention sur des objets très anciens, des objets religieux magnifiques du premier millénaire, qui sont parmi les plus beaux que le christianisme ait produit. Ce musée à Dublin est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Hein. Sans compter dans des endroits comme des grandes bibliothèques, de grandes universités, où on peut voir des manuscrits superbes, des œuvres d'art extraordinaires qui datent du 8e et 9e siècle. Alors, à l'époque de notre Saint-Laurent O'Toole, on a vu des monastères qui se sont corrompus. Ils étaient soumis à la tyrannie de seigneurs anglais ou anglo-saxons, qui étaient terribles. C'est Saint Bernard qui a écrit dans sa vie de Saint Malachie. Saint Malachie, vous savez, c'était l'archevêque d'Armagh, en Irlande, et qui est mort à Clairvaux, monastère de Saint Bernard, en 1148. Eh bien, Saint Bernard écrivait qu'il a trouvé dans l'évêché de Connor, vers 1124, et j'ouvre les guillemets, non des hommes, mais des bêtes, des chrétiens de nom, mais des païens de fait. On trouve ça dans les Pères latins, dans la grande série des ouvrages de l'abbé Migne, le Père latin, dans le tome 182. Imaginez la série de tomes, c'est le travail de l'abbé Migne, il faudrait bien que je vous en parle un jour, il a fait ça au siècle dernier, c'est absolument fabuleux. Il a édité les Pères de l'Église, tant latine que grecque. Donc le père de notre Laurent O'Toole, qui s'appelait Muirchertach, on traduit ça en Maurice, en français, il était le chef, paraît-il, des huit Muiredag. Bon, ce sont des gens qui étaient établis au sud du comté actuel de Kildare, à l'ouest de Dublin. Donc, notre Laurent était son plus jeune fils. Il voulait l'appeler Conchubar, du nom d'un héros régional. Mais avant le baptême, un barde irlandais, vous savez, c'est chanteur, aujourd'hui on dirait un chansonnier ou quelqu'un comme ça, est intervenu pour qu'il soit appelé Laurent. Et à la suite d'une guerre, Laurent a été donné en otage au roi d'Irlande, qui s'appelait Diarmait. On le connaît sous le nom de Dermot. Et il était surnommé des étrangers parce qu'il a été la cause de l'invasion anglaise. Alors, ce roi l'a envoyé dans une vallée très morne. Il y avait là des montagnes très escarpées. Tout était fait pour attrister notre pauvre petit Laurent. Et toutefois, il y avait des frênes, puis il y avait un parc, que l'on appelle aujourd'hui le parc de Saint-Laurent. Il était mal nourri, peu vêtu. Et ce pauvre enfant a souffert d'une maladie de peau. Alors, en apprenant cela, son père a choisi 12 prisonniers qu'il avait fait à ce Dermot, ce roi Dermot, là. Et il avertit Dermot qu'il les tuerait si son fils Laurent ne revenait pas. Alors, pour sauver la face, le roi Dermot, en 1135, a rendu notre petit Saint-Laurent O'Toole à l'évêque de Glendalocha, qui s'appelle aujourd'hui Glendalough. Et le site, cet endroit-là, était fort beau, dans des montagnes boisées. C'est beau, l'Irlande, hein? C'est au sud-est de Dublin. A été bien soigné par un chapelain. Et la vie de ce pauvre enfant a été sauvée, il s'est épanoui et tout naturellement il s'est tourné vers Dieu qui lui donnait à manger et à dormir et il voyait que Dieu est bon. Il a appris le Notre Père, le Je crois en Dieu. Et puis son père, Maurice, est venu à Glendalough afin de remercier l'évêque. Il a prié de tirer au sort l'un de ses fils pour le service divin. Mais on faisait ça dans cette époque. Hein? Les enfants, je vous l'ai souvent dit, étaient consacrés à Dieu très jeunes. Mais Laurent se sentait pas très prêt à faire partie d'une loterie pareille. Et puis, il préférait se porter volontaire. Il avait peur de perdre, quoi. Alors, il est resté dans le monastère, qui avait une belle tour ronde et belles chapelles antiques près d'un lac. Et il y avait là le souvenir de Saint Kevin. C'est un nom très populaire aujourd'hui, Kevin. On donne ça même à des Québécois de langue française. Hein? Saint Kevin. Il y a même une paroisse Saint Kevin à Montréal. C'est un grand saint irlandais. Donc, le souvenir de Saint Kevin régnait là. C'est sa fête le 3 juin. Je vous en parlerai l'an prochain. C'est Kevin le fondateur de ce monastère-là. Et on montrait la grotte de Saint Kevin dans le coteau qui était dite le lit de Saint Kevin. C'est curieux. Hein? Et le monastère entretenait des traditions d'études, c'est ça qui est important, avec un scriptorium. Un scriptorium, c'est une grande salle où il y a des espèces de grands pupitres un peu penchés, là. Et les moines, dans cette époque, ouvraient leurs grands manuscrits, car tout était manuscrit, évidemment, à l'époque, l'imprimerie n'était pas inventée. Et c'était dans ces monastères qu'on étudiait de façon remarquable. Et là, il a développé du goût pour le chant liturgique, le chant grégorien. Et on conservait d'ailleurs dans ce monastère une harpe de Saint Kevin. Il y a 25 ans, en 1148, Saint Laurent O'Toole a été élu abbé de Glendalough. Alors, il a eu à souffrir de toutes sortes de cabales qui étaient suscitées par des faux frères, mais il était bon, mais énergique aussi. Alors, il a surmonté les obstacles. Les temps étaient durs à cette époque. Il y avait de la famine, du brigandage. Alors, notre père abbé, Laurent O'Toole, donnait largement aux affamés. Il priait. Priait même pour les brigands. Et bientôt, l'un des chefs de ces brigands a été capturé. Comme il passait pour être de sang royal, personne n'a osé, parmi les laïcs, évidemment, lui ôter la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, et c'est dans les textes de l'époque, c'est terrible, on lui creva seulement les yeux. C'est épouvantable. Mais c'était les coutumes de l'époque. Il faut dire que le christianisme n'a réussi à sortir de la barbarie que petit à petit une population immense de toute l'Europe et d'une grande partie du monde. C'est très long, le christianisme vécu, c'est très long à pénétrer le cœur des hommes et des femmes. D'ailleurs, au reste, ce brigand de sang royal est mort peu après. D'autres brigands sont tombés sur des prêtres qui avaient sur eux, en guise de porte-bonheur, on faisait ça dans ce temps-là, la Sainte Eucharistie. Curieux, hein? Les prêtres portaient l'Eucharistie en guise de porte-bonheur. Or, les brigands les ont détroussés, ont fait main basse sur les hosties, les ont croqués à belles dents, alors Laurent a jeûné. Tout un jour, il a prié longuement pour réparer tout ça. Et 8 jours après, les chefs des voleurs étaient pris, et l'un d'eux fut pendu sur un rocher élevé qui dominait l'entrée de l'église de Glendalough, de ce monastère. C'est curieux, hein, les coutumes. Et en 1152, Saint Laurent O'Toole a refusé de devenir évêque du lieu. 10 ans plus tard, la date de 1162 semble assez assurée, il a dû accepter l'archevêché de Dublin, la capitale de l'Irlande. Dublin s'est fondé face à la plaine anglaise de Chester, là, c'est du côté où ça fait face à l'Angleterre, était fondé dans un point où la belle plaine irlandaise débouche librement là, vers la mer. C'est très beau, cette région. Et les Danois avaient fait d'ailleurs de cette cité un centre commercial comparable à Londres. Il y avait une vie mercantile très forte. C'était même plus actif, on pourrait dire, que la vie chrétienne, tu as eu souvent dans ces endroits-là. Hein. Et Laurent O'Toole a été consacré par le primat, ou peut-être par les évêques de Kildare et de Ferns, ou par les trois ensemble. Toujours est-il que il a été consacré exclusivement par des Irlandais. Les Anglais n'ont rien eu à voir dans cette consécration. C'est très important pour les Irlandais, ce détail-là. Le prédécesseur de cet évêque, Laurent O'Toole, était d'origine scandinave, lui. Il avait été sacré par l'archevêque anglais de Canterbury. Puis on l'appelait quoi? Ben l'évêque des étrangers. Les Irlandais ne l'aimaient pas tellement. De toute façon, la situation de Laurent était très délicate. Il était pris entre son patriotisme irlandais, que l'on voit toujours dans nos rues de Montréal le 17 mars, même s'il célèbre tout ça en anglais dans la langue de ceux qui les avaient conquis pendant si longtemps, et dans la langue qui est en principe un peu étrangère à la grande majorité de la population du Québec. N'oublions pas qu'au Québec, les gens qui parlent français sont environ 85-87%. Donc, il était pris, ce Laurent O'Toole, entre son patriotisme irlandais et son désir de voir aboutir la réforme religieuse dans son pays. Une réforme qui semblait favorisée par l'envahisseur. Dès 1156, en effet, le pape anglais, Adrien IV, un des rares papes étrangers, anglais, Adrien IV, avait légitimé d'avance la conquête de l'Irlande par les rois anglo-normands. Malheureusement, il y avait eu un violent conflit entre le roi Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre, qui était une espèce d'homme de loi irascible, puis l'archevêque de Canterbury, Saint Thomas Becket, qui, lui, il faut le dire, était un saint un peu raide, un peu cassant. Alors, ça aboutit à quoi, cette opposition entre le roi Henri II, Plantagenet, puis Thomas Becket? Vous vous en souvenez, hein? C'est ce fameux meurtre. Thomas Becket a été assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170. C'est comme ça que le grand écrivain anglais merveilleux que j'aime beaucoup, T.S. Eliot, a écrit « Murder in the Cathedral ». Meurtre dans la cathédrale. C'est à lire, hein, c'est très beau, très très beau. Alors c'était un cri d'horreur qui a suscité ce meurtre. Un cri d'horreur dans toute la chrétienté, on avait, c'est inimaginable, un archevêque de Canterbury, chef de l'église d'Angleterre et d'Irlande finalement, tué par des soldats du roi. Alors pour se réconcilier avec l'église en mai 1172, le roi a dû admettre une pénitence en règle. Faire pénitence pour un roi, c'était s'humilier au plus bas degré. Et afin de l'obtenir, cette réconciliation, bien, le roi Henri a présenté habilement son action en Irlande comme une croisade romaine. Il étendait l'Église catholique jusqu'en Irlande, prétendait-il. Mais elle était là, en Irlande, depuis Saint-Patrick, ça faisait longtemps. Du côté irlandais, c'était l'incohérence. Il y a eu un concile qui a décidé de libérer les esclaves anglais. Alors, une grande armée irlandaise venait assiéger Dublin, et appuyée par le roi de l'île de Man qui bloquait le port, mais les anglo-normands sont tombés sur l'ennemi au moment où le général irlandais était au bain. C'est assez curieux. Évidemment, c'est louable de se baigner, n'est-ce pas? Même à cette époque, on se baignait très peu. Surtout à cette époque, peut-être, pourrait-on dire. D'ailleurs, il faut rappeler que dans la guerre entre les Russes et les Japonais, là, les blessés japonais, paraît-il, mouraient moins que les Russes, parce qu'ils s'empoisonnaient moins, il y avait moins d'infections, ils étaient plus propres. Ils avaient l'habitude de se baigner, puis les Russes ne se baignaient guère. C'est une anecdote véritable. Ah, de toute façon, le moment, semble-t-il, était mal choisi pour le chef irlandais, et ses hommes ont été mis en déroute. De toute façon, la misère était profonde en Irlande, et Saint-Laurent O'Toole a fait distribuer des croix de bois aux enfants abandonnés pour qu'ils les portent comme signe distinctif, destiné à pitoyer la population. Les enfants abandonnés se promenaient avec une petite croix, et ils étaient souvent adoptés ou aidés par les gens, la croix étant le signe qui rongeait le cœur des adultes qui passaient près d'eux. Peut-être devrait-on faire ça avec nos enfants qui sont abandonnés dans nos rues, leur donner des croix, et susciter peut-être dans le cœur de plus de gens l'idée de les adopter. J'ai eu l'audace de faire ça avec un itinérant et j'en suis très heureux. C'était très dur, mais quelle joie on a de sortir quelqu'un d'une misère abominable pour en faire quelqu'un de beaucoup mieux. Alors un jour que Saint-Laurent voyageait avec une suite, un paysan lui a dit, très franchement, « Seigneur, c'est très beau d'avoir beaucoup de cavaliers, mais c'est mieux de secourir les malades. Voici, nous avons une folle parmi nous. » Alors, Laurent a délégué d'abord quelques-uns de ses prêtres sans résultat. Alors, il est venu en personne. Il l'a fait lier, parce qu'elle était vraiment surexcitée. Il lui a imposé les mains, il a tracé la croix sur sa poitrine, la croix sur sa poitrine. Il lui a donné à boire de l'eau bénite. Vous savez, on fait ça encore. Je faisais ça parfois avec quelqu'un comme ça, et ça l'aidait beaucoup. On mettait dans son café. Ça l'aidait. Faut prier en même temps. Et cette folle dont on parle ici, bien, elle est guérie 3 jours après. En 1175, il est passé en Angleterre pour négocier un accord. Entre Roderick O'Connor, qui était roi de Connaught, et Henri II, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était conclu le 6 octobre à Windsor. Et le roi s'est montré bienveillant pour notre Saint-Laurent O'Toole, qui alla prier sur la tombe de Saint Thomas Becket, qui avait été canonisé en 1173. Mais la politique du roi anglais était dure pour l'Irlande, et comme il allait célébrer une messe solennelle à Canterbury, bien Laurent O'Toole a été assommé d'un coup de massue par un fou, assommé et étourdi. et notre prélat, qui avait la tête ensanglantée, a demandé de l'eau. Il a récité sur cette eau un pater, il l'a béni. On a lavé le sang avec de l'eau sanctifiée. Puis, il a pu célébrer la messe. Mais il a gardé une cicatrice au crâne. Et le fou, lui, en le frappant, croyait bien agir. Il entendait faire de Laurent, de Saint-Laurent, O'Toole un autre Saint-Thomas Becket, et d'acquérir pour lui-même une belle récompense par cette attention délicate. C'est absolument étrange. L'idée qui va dans la tête de certains fous. Alors le roi, qui avait ordonné la pendaison de l'assommeur, là, bien, Laurent O'Toole, Saint-Laurent O'Toole, très touché de la bonne intention de cet homme bien simple, a obtenu sa grâce. Et nous verrons tout à l'heure ce qui lui est arrivé quand il s'est réfugié finalement à eux en Normandie. En mai 1179, le pape a nommé Laurent son légat en Irlande. Laurent s'est mis au travail. Le clergé, qui venait d'Angleterre, était réputé meilleur que le clergé irlandais. Mais le clergé anglais n'était pas toujours édifiant. Hein. Et Saint-Laurent a cru devoir expédier à Rome pour se faire relever de certaines censures 140 clercs anglais. Parce qu'il les avait censurés, mais ils pouvaient être libérés, si on peut dire, que par des documents signés à Rome après avoir été examinés. Ils étaient sévères à cette époque. Imaginez partir de l'Irlande et se rendre jusqu'à Rome. C'est à l'autre bout du monde à cette époque. C'est pas, il y avait évidemment pas d'avion, hein. Mais les privilèges conférés à Dublin. Puis l'office de légat qui avait été confié à Saint-Laurent. Tout ça, ça déplaisait au roi anglais Henri II. En 1180, l'année suivante, Laurent s'est présenté en Angleterre, chargé par le roi de Connaught, en Irlande, qui était presque dépossédé, lui, qui est chargé de plaider sa cause devant ce roi anglais. Très probablement pour une question de tribut en retard, parce que le roi irlandais devait payer des tributs au roi anglais, qui dominait, qui exploitait. Un peu comme autrefois ici, il fallait envoyer en Angleterre des tas de fortunes qui venaient du Canada, hein. Non, au tout début, après la conquête, après 1763, nos richesses naturelles ont été grandement exploitées par les Anglais ici, comme dans l'Empire britannique. Hein, c'est normal, c'était comme ça à l'époque. Normal, entendons-nous. Hein. Et alors, Henri, le roi Henri, n'a pas voulu le recevoir. Il n'a pas accordé d'audience. Trois longues semaines, Saint-Laurent O'Toole a attendu, lui qui était archevêque de Dublin, il a attendu à l'abbaye d'Abington, près de Dorchester, le bon plaisir du roi. Le roi Henri est passé en Normandie le 15 avril 1180. Alors Saint-Laurent décide de le suivre, accompagné du fils du roi Roderick de Connaught, le roi irlandais, qui devait servir d'otage auprès de Henri II. Le roi irlandais envoyait son fils comme ça en otage parce qu'il ne pouvait pas payer le tribut, hein? Il ne pouvait pas payer l'argent. Alors, arrivé près de EU, comme je vous ai dit au début, là, c'est en Seine inférieure, ça, dans la région de Dieppe, quoi. Grosso modo, là. Alors, Laurent, Saint-Laurent était fatigué. Puis il était découragé. Il y a eu comme un pressentiment de sa fin. Il a évoqué devant tout le monde un verset des psaumes. Alors, cette expérience complètement insensée et amère qu'il avait amassée au cours de 57 ans de vie, mais ça l'angoissait. Imaginez, c'est une vie d'angoisse. Hein? Et l'avenir de l'Irlande le tourmentait. Toujours cette exploitation qui faisait les Anglais à cette époque déjà. Alors, notre malade, Saint-Laurent O'Toole, avait envoyé des délégués à Henri II, qui a promis finalement d'être bon pour le roi irlandais Roderick, ou Roderick. Et ce fut une joie pour la dernière heure de Laurent. Il inclinait un instant la tête sur la poitrine du messager, qui était un prêtre du nom de David, et il est mort le vendredi 14 novembre 1180, à la fin du jour. Faut dire que Laurent O'Toole était réputé pour être très grand, très beau. Sous son costume de prélat, il portait l'habit très simple de chanoine. Des chanoines réguliers, là. Pas les chanoines ordinaires avec de l'hermine, non, non. Il avait une chemise, un caleçon et même des chaussons de crin dur. Et on dit qu'il y avait des vers qui s'y trouvaient et qui le mangeaient. On est au Moyen-Âge. Il mangeait très peu. Souvent, il mangeait son pain, même avec des rinçures. Des choses vraiment très mauvaises. Il prenait fort peu de vin. Ça ne l'empêchait pas d'être un hôte magnifique, et il nourrissait beaucoup de pauvres. Il veillait spécialement à se gourir les jeunes mamans. Au moins 3 fois par jour, il se faisait donner la discipline, car il se faisait donner la discipline dans ce temps-là. Il faut dire que la discipline, c'est des fouets, oui, de cordes. Ça ne blesse pas, mais ça pince, ça fait un peu mal. J'ai connu ça quand j'étais jeune, ça se pratiquait encore. Imaginez, je crois que c'est retiré maintenant des monastères, mais ça existait encore dans les années 40 et 50. Et c'est un peu surprenant, il y a des auditeurs qui doivent être très surpris de m'entendre dire ça, mais c'était dans la conception de l'époque, les choses ont bien changé. On insiste beaucoup plus sur le souci auprès des pauvres et sur l'amour de Dieu, sur le devoir d'être croix. On fait ce qu'on a à faire par amour pour Dieu. Et la sainteté vient au creux de l'amour, et non pas au creux de ces exercices de pénitence terribles. Il recourait souvent à la confession, au sacrement de pénitence, de la réconciliation, comme on dit aujourd'hui, car il trouvait que ça le nettoyait, ça le tonifiait. Les chanoines d'eux ont fait aux défunts d'imposantes funérailles. Un cardinal italien, qui était légat pontifical, se trouvait de passage, il a présidé à l'inhumation en l'église Notre-Dame chez les chanoines. Et ceux-ci, au bout de quelques années, ont demandé à la curie de canoniser Saint-Laurent-Autour. Alors, les négociations se sont poursuivies sous 3 papes pendant plus de 30 ans et après une délibération qui a duré longtemps. Mais le 4 décembre 1226, dans la résidence du pape Honorius III, qui habitait à Rieti à ce moment-là, Laurent-Autour a été proclamé saint le lendemain. Et une lettre du 11 expédiée à Rouen a fixé la date de sa fête là, au 14 novembre. N'oublions pas qu'il est le patron de Dublin et de la ville d'Eux, en Normandie. Saint Laurent est l'un des plus grands saints irlandais après Saint Patrice. Nous passons à un autre saint. Étienne Théodore Cuinot. Son nom de famille, Cuinot, c'est comme Hugues Cuinot, n'est-ce pas ce merveilleux chanteur qui a enchanté ma jeunesse. Hugues Cuinot. Mais maintenant, il est question vraiment de Étienne Théodore Cuinot, un évêque du 19e siècle. Son père était cultivateur, s'appelait Alexandre Cuinot. Sa mère était Éléonore Riss, R-I-2-S-E. C'est de pauvres gens, les pieux. Le bienheureux Étienne Théonore Cuinot était l'aîné de 11 enfants. Il est né le 8 février 1802 à Sous-Réaumont, une dépendance de Beaulieu. Ça, c'est dans l'est du Doubs, c'est-à-dire, pas loin de la Suisse, en France. L'enfant était baptisé dans une grange qui avait abrité, sous la Révolution, des messes clandestines. N'oublions pas qu'il est né en 1802, juste après la Révolution. Il a étudié chez 2 curés. Ses parents payaient sa pension par des dons en nature. Mais à un moment donné, ils étaient incapables de payer, alors ils ont retiré leur fils des presbytères. Alors tout de suite, le voisinage s'est alarmé. Et puis les voisins ont envoyé eux aussi des dons en nature au curé. Et puis la reprise de l'étude a pu se faire. Quand il a été question d'entrer en théologie, ses parents, ses frères et sœurs ont trouvé que Théodore était plus ou moins mal habillé. Alors, sa mère, c'est assez étonnant, c'est touchant. Elle pouvait peut-être lui tailler un costume dans sa robe de noces. Les robes de noces n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, en satin blanc ou je ne sais quoi. Alors, elle s'est décidée à le faire. Puis quand elle s'est mise à tailler dans sa robe de noces, Sa pauvre mère s'est mise à pleurer. Et notre bienheureux Théodore Cuinot n'a jamais oublié le sacrifice qu'elle avait fait. Et une fois prête, bien, avec un peu d'argent, il lui a offert une robe neuve, dit-on. Et au grand séminaire, il s'est montré très vaillant. Pendant les vacances, il a passé la frontière vers la Suisse, en civil, pour étudier certaines questions d'horlogerie. On sait que l'horlogerie, c'est une des grandes connaissances suisses. Et alors, cette fugue, si on peut dire en habit laïque, l'a très mal fait voir au séminaire, imaginez. Alors, il était précepteur, c'est-à-dire s'occuper des enfants, n'est-ce pas, précepteur chez le député du Doubs, cette région près de la Suisse, là. Et il a demandé, par son intermédiaire, un brevet pour une découverte du mouvement perpétuel, et l'invention fut peu goûtée au séminaire, encore les gens du séminaire qui comprennent pas. Que c'est donc triste. Alors, Théodore a été retardé aux ordres. Je vous lis ça, c'est pas pour vous faire fâcher contre les autorités des grands séminaires. C'est juste pour voir comme on n'était pas toujours bien, bien brillant à l'époque, que l'Église est passée à travers bien des tourments. Heureusement, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Il souhaitait, notre bienheureux Théodore Cuinot, il souhaitait être admis au séminaire des missions étrangères à Paris, hein. Alors, il faut aller là, hein. Mais on exigeait pour entrer qu'il soit sous-diacre. Alors, notre séminariste a eu des moments d'angoisse au cours d'une nuit terrible. Il a même songé aux dernières extrémités, c'est-à-dire au suicide, quoi. D'ailleurs, le ministère paroissial du clergé séculier le dégoûtait. Ça ne l'attirait pas du tout, du tout, du tout. Pourtant, c'est quelque chose de très noble et de très grand que le ministère paroissial, quand il est bien exécuté, entouré de laïcs et de gens responsables dans la paroisse, qui sont vraiment nourris de la parole de Dieu et désireux de vraiment servir le Seigneur. Hein? Alors, il s'est demandé s'il ne quitterait pas la soutane. Est-ce qu'il partirait pour Paris, pour aller au séminaire des missions étrangères? C'est sur la rue du Bac, c'est tout près de la chapelle de la médaille miraculeuse. Allez-y, visitez le musée, c'est magnifique quand vous serez à Paris, pour ceux qui ont la chance d'y aller. Hein? Alors, notre bienheureux s'est tourné vers un grand souvenir familial. Le père, qui s'appelait Receveur, quel curieux nom. C'était une sorte de grignon de Montfort, ce père Receveur. Le grignon de Montfort de la région, une espèce de prédicateur extraordinaire. Et ce père Receveur avait fondé une œuvre très importante qu'il avait laissée dans cette région de son enfance. Ça s'appelait la retraite chrétienne. Alors, le bienheureux Théodore Cuinot a achevé sa théologie à Aix, dans la maison fondée par ce père Receveur. Et le 26 février 1825, il était tout jeune, 23 ans, il était ordonné sous-diacre à Marseille. Le 24 septembre, il était prêtre. Sa première messe fut pour la Saint-Michel, donc le 29 septembre. Il invita ses parents à venir à cet endroit qui s'appelait la retraite chrétienne, une sorte de manufacture silencieuse. Et on l'appelait le père Théodore de la retraite chrétienne. Mais il confessait, il catéchisait, il enseignait les humanités. Et au-dessus de toutes ces occupations, il y avait la petite messe et le bréviaire romain, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il disait très bien sa messe, très simplement. Et il récitait ses psaumes que les prêtres récitent, et beaucoup de laïcs de plus en plus et de religieuses. Il a obtenu de la retraite un secours de 500 francs pour ses parents. Ceux-ci le voulaient curer près d'eux, alors il a répondu énergiquement, « Non, 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 rien, rien ne m'empêchera de faire mon salut. » De votre côté, n'oubliez pas de faire le vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire votre salut? Je le dis pour des gens qui ne comprendraient pas l'expression. Ça veut dire vivre en union avec Dieu. Pour qu'au moment de la mort, on ne soit pas loin de Dieu, qu'au contraire, on puisse plonger dans le sein de Dieu, dans cette immense lumière, cette immense chaleur, cette immense douceur, à la fois maternelle et paternelle de Dieu. Et enfin, le 23 juin 1827, il est arrivé au vestibule, si on peut dire, de la terre promise, comme il disait. Il est entré au séminaire des missions étrangères rue du Bac, à Paris. Il écrivait chez lui, « Je veux le ciel, rien que le ciel, une grande place au ciel, le ciel pour moi et pour vous, chers parents que j'aime. » Alors, en 1828, il partait pour Bordeaux. Il s'est embarqué le 3 avril, il avait 26 ans. Le 10 avril, il était en vue de Madère, au large du Maroc. Le 30 juillet, il voyait Batavia, le grand port à l'ouest de Java. Vers le 15 octobre, il arrivait au port chinois de Macao. Il était destiné à l'Indochine. Cette région avait été évangélisée superficiellement par quelques dominicains à partir de 1550, mais ça avait été évangélisé avec beaucoup plus d'efficacité par des jésuites au siècle suivant, de 1616 à 1621, en quelques années quoi, en 5 ans. Et la population chrétienne avait monté de quelques milliers en 1671 à 70 000 en 1743. En 1750, il y avait une persécution qui a arrêté les progrès. Mais de 1789 à 1833, c'est une période de paix pour cette chrétienté. Et 2 ans plus tard, le 3 mai 1835, à 33 ans, notre nouveau venu, dont on avait reconnu les solides qualités, a été sacré évêque. Évêque coadjuteur de la Cochinchine, comme on l'appelait à cette époque. C'était en Vietnam, quoi. Alors, il fut un administrateur ferme et zélé. Il savait augmenter le nombre des prêtres indigènes, élargir le royaume de Dieu chez les païens. Il savait codifier les usages de la mission, puis a demandé à Rome l'autorisation de consacrer des autels sans reliques. Parce que dans les reliques, il y a toujours une petite pierre là que le prêtre embrasse quand il embrasse l'autel. En fait, il embrasse ses reliques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parcelle des corps des saints, temple de l'Esprit Saint, corps sanctifié par la grâce. Un corps se sanctifie quand il est donné à Dieu et aux autres, dans le service, dans l'amour. Alors, les reliques étaient souvent perdues ou profanées dans ces régions-là. Et puis, il voulait célébrer aussi la messe 3 heures avant l'aurore. Il voulait la réciter à voix basse pour échapper aux ennemis. La persécution avait repris en 1833. Ça contrecarrait les efforts de notre apôtre, le bienheureux Théodore Queneau. Et là, le 3 octobre 1839, le roi Min Meng a lancé un décret contre les chrétiens. Et en novembre 1847, 8 ans plus tard, son successeur, Tu Duc, T-U, trait d'union D-U-C, c'est un nom à retenir, continuait sa politique. Il l'aggravait. Et là, notre évêque écrivait, « Les choses spirituelles sont sur le penchant de leur ruine. Je suis joliment fatigué de vivre. » Mais il ne s'était pas au découragement. Il avait autour de lui des sujets de réconfort, hein, comme une communauté nouvellement fondée qu'on appelait les amantes de la croix. Oh, ça fera rire des gens peut-être, mais c'est beau, les amantes de la croix. Car c'est par la croix, on le répète, mais pourquoi par la croix? Parce qu'on aime celui qui y est mort et par laquelle il est ressuscité. Et c'est sur la mort que Dieu prouve tout son amour pour nous, car il accepte d'aller jusqu'au bout. Il vient sur terre et dit qui il est et se fait tuer. Dieu, plein d'amour, mort sur la croix, ressuscité, les amantes de la croix le vénèrent. Et alors, il y avait là 380 personnes chez les amants de la croix, en 12 groupes. Ils étaient dispersés par la persécution, mais tenaient bon quand même. Elles avaient bien peu de secours spirituel. Et alors, en mai 1841, il avait 39 ans, il a réuni un synode pour la province de Binh Dinh. Et pour la formation des prêtres indigènes, il a organisé 2 séminaires. Le Collège général de Penang, au détroit de Malacca. Ça lui tenait à cœur. À la fin de 1848, des pirates ont volé les subsides qui étaient adressés à la mission. Et Mgr Queneau a augmenté vite son clergé. Il avait trouvé 17 prêtres indigènes en 1835, et pendant ses 26 ans d'épiscopat, il en a redonné 56. Il les soutenait beaucoup. Il a stimulé ses chrétiens par l'émulation. Le nombre des bouddhistes convertis dépassait 1000 chaque année, de 1842 à 1855. Et si un chrétien, sous la torture, avait faibli et abjuré, eh bien, pour se faire pardonner, il devait gagner, chose étrange, plusieurs païens à la fois. Et tous les ans, l'évêque publiait des tableaux d'honneur pour les records des catéchumènes. Alors, les catéchistes étaient répartis en trois classes. Et puis, il y en avait qui étaient très choyés par lui. Il les aimait beaucoup. Dans sa pensée, les gens du Laos auraient pu devenir des hôtes au moment des persécutions, mais ils n'ont pas pu réaliser son repli vers le Laos. Mais son zèle n'a pas été perdu, et il a doté sa mission de traduction, d'adaptation indispensable, l'évangile, l'abrégé de la Bible, l'imitation, des méditations, des sermons. Il s'est occupé vraiment de ses fidèles à fond. Il a travaillé comme ça pendant 25 ans, cherchant à améliorer, à progresser contre vents et marées. On peut dire qu'il a été un précurseur de l'action catholique. Et en 1855, le fameux Tuduc a renforcé son activité contre l'Église. Il y avait un mandarin chrétien qui a été exécuté à la cour même en 1857. C'est épouvantable. Et alors, ce pauvre prélat vieilli a vécu dans une cage quand il était saisi. On le tenait, il ne pouvait tenir que sa tête penchée, ses jambes repliées. Et interrogé, il a répondu qu'il était dans le pays depuis 36 ans et au cours d'un transfert, des gardes l'ont laissé tremper dans l'eau d'un fleuve. C'est épouvantable. Il a souffert le martyr. Et puis, finalement, affaibli, il est mort à Bindin dans la nuit du 14 novembre 1861. Et le 15 arrivait l'heure de le décapiter. Après lui avoir infligé le supplice des 100 plaies, là, l'un des geôliers s'est écrié, il était devenu parfait. Le ciel s'est hâté de le recevoir sans permettre qu'il subisse ce supplice abominable. En 1862, il y a un traité qui était signé entre la France et le fameux Tuduc, et là, la liberté de culte a été proclamée. Étienne Théodore Queneau a été déclaré bienheureux le 2 mai 1909. Il y a une statue de bronze en France, là où il est né, qui a été érigée en 1937.